Une heure sur Phare FM. Phare FM. Vous écoutez la radio autrement, dans la nuit autrement, c'est jusqu'à 5 heures.
La Bible dit:
mieux vaut manger un plat de légumes préparé avec amour que la viande la plus savoureuse servie avec haine.
Pour recevoir gratuitement une Bible, pharefm.com/bible.
We were a long way from home, haven't seen you in so long, but it all came back in one moment. And the year started cold, but I didn't notice it all. And we found there's a room we're both in. We get Chinese food in small white boxes, live the life we saw in Friends. Your room, it barely fits the mattress. Wake up, leave for work again. The wind, it seems to blow right through us. Down jackets are the trend, the rusher rushing deep into love. English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me, my English girl in an American town. Close, and the scent of your perfume's on me. You're useless with your phone, electric when one on one. I thought I would be more nervous, darling. We watch comedies and miss the endings, conversations till the dawn. Any change in tide we push against it, challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. Drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost, then you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet out 3 feet off. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor. I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet up 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town.
Just a word, I am so sorry to disturb. You may be thinking I'm a fool. I heard you telling you don't care. I heard you thinking loud and clear. Doesn't make me proud of you. I know your time is precious, but give me just a second. I need to strengthen out with you. My hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the worst because of you. And I know, oh, 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 that it's not a dream.
words of justice. When I look right into your eye, those feelings never lie. My only weapon is the song, and you won't have to sing alone. This is the story of my life.
Sur Phare FM, ravie d'être avec vous. Il est une heure passée, j'espère que vous allez bien. Si vous travaillez, bon courage. Et si vous ne dormez pas encore, bon courage aussi. C'est toujours ce que je dis toutes les nuits, parce que les insomnies, c'est pas évident à gérer. Alors, je vous accompagne avec grand plaisir, avec encore plein de belles musiques. On entendra également Samuel Peterschmidt tout à l'heure dans Pain de Vie. On aura un moment aussi avec Hommes et Femmes de mode d'emploi. Et le thème sera la lettre de pardon. Mais avant cela, de la musique, Thalia Acacia, If You Think, c'est maintenant, suivi de Lorraine avec Tattoo. Et puis, Suis-je le gardien de mon frère? Ce sera, comme promis, le thème de Samuel Peterschmidt dans Pain de Vie, tout de suite après ces deux titres. Merci de rester avec Phare FM et très très bonne écoute à vous.
Minuit 5h, la nuit autrement
avec Mireille.
Started with the empty cup of tea I used to spend just him and me. Then it was the empty chair I couldn't bear, so I moved it out again. Oh, oh, it's so lonely with memories. Oh.
it's alright, I'm okay. I try to hide behind this, but it's not, no it's not, I'm a wreck without your hand to guide me. It's alright, it's alright, I'm okay. If you think you're alone, it's not so. Oh, I'm with you anyways. If you think you can't cope, oh, to hope, hold my love on any day.
Que vous allez entendre maintenant vous est donné par Samuel Peter Schmidt.
Mon thème se pose sous la forme d'une question. Suis-je le gardien de mon frère ? C'est dans un contexte très particulier que cette phrase fut dite. Suis-je le gardien de mon frère ? Réponse à une autre question posée par Dieu à un homme du nom de Caïn. Où est ton frère ? À cette question, d'abord une réponse sous forme de question dans laquelle se trouve un mensonge, je ne sais pas, conclu et ponctué par « Suis-je le gardien de mon frère ?» Nous sommes dans une société de plus en plus individualiste, notre société occidentale, dans laquelle on communique, mais on communique en étant de plus en plus seul. Vous montez dans un train, et celui qui est en face de vous a dans les oreilles deux écouteurs, qui signifie d'emblée, je suis dans mon monde, ne me dérangez pas. Aujourd'hui, vous êtes même à table, et alors que vous mangez, votre interlocuteur d'en face est en train de bidouiller sous la table avec un téléphone portable, parce qu'il passe un SMS. Il est avec vous en face de l'assiette et pourtant absent, parce qu'en train de communiquer avec je ne sais qui à l'autre bout du monde. Vous pouvez pas savoir ce que ça m'énerve quand mes fils font ça. Tu voudrais de la communion et tu peux pas parce qu'ils sont toujours ailleurs. Aujourd'hui, vous pouvez mourir tranquillement. On découvrira que vous êtes mort, peut-être parce que vous ne payez plus vos impôts. Ou alors aux odeurs suspectes. J'étais dernièrement avec une personne qui travaille dans les pompes funèbres. Et il me disait, si tu savais, ou si tu voyais parfois ce que nous trouvons. Il me dit, nous avons trouvé un homme qui a été également signalé à cause de l'odeur nauséabonde et dérangeante dans le couloir, couché dans sa baignoire depuis environ 2 semaines. L'eau avait coulé toujours au même endroit, au stade où il n'y avait plus de chair sur les os. C'est ici. C'est dans notre société dit développée. Individualisme, égoïsme. Alors évidemment, en période d'hiver, les caméras vont se promener dans les rues et montrer le travail des bénévoles dans les rues. Mais combien y a-t-il de bénévoles par rapport aux 67 millions de Français? Et tout le monde se calme la conscience en se disant « Waouh, c'est bien, on s'occupe de ces pauvres gens. » Oui, on s'occupe, mais toi pas. Voyez-vous, nous sommes baignés là-dedans. On est presque dans des mondes virtuels dans lesquels nous sommes enfermés comme dans des bocaux. Et nous ne communiquons plus, et nous ne prenons plus soin les uns des autres. Combien de parents meurent seuls? Je suis heureux que nous ayons nos parents près de nous, heureux de voir ma sœur Karine souvent être avec eux, heureux de voir que nous communions ensemble, heureux de voir que les jeunes et les vieux peuvent se réjouir ensemble. Il y a quelques années, il était inimaginable de voir des parents mourir seuls, sans leur famille. Dans des sociétés, des cultures, comme la culture africaine, il est impossible qu'on laisse le vieux mourir tout seul. Lorsque Jokel était venu du Sénégal pour faire au milieu de nous un séjour, afin de voir comment nous fonctionnons, au bout de 6 semaines, il me disait, j'ai hâte de retourner au Sénégal, parce qu'en voyant les gens vivre ici, eh bien cela me fait peur. Les gens sont seuls. Ça, c'est la société. Et nous sommes une part de cette société-là. Mais ma crainte, c'est de voir cet esprit individualiste, cet esprit égocentrique, finalement pénétrer dans l'Église. Ma peur, c'est qu'un jour, eh bien, nous répondions comme Caïn. D'ailleurs, si la question nous était posée, que dirions-nous? Vous savez, ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Écoutez ce que l'apôtre Paul disait. Il dira aux Philippiens que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et dans le chapitre 2, verset 19, aux Philippiens, il dira « J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne, car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Il s'adresse à une église, il s'adresse à des croyants. Je bénis Dieu pour tous ceux qui sont préoccupés par ce qui se passe en mission, en Algérie, au Sénégal, tous ceux et celles qui se sentent concernés, qui sont engagés. Mais combien ne se sentent pas concernés, loin des yeux, loin du cœur? Pourtant, ce ne sont pas moins nos frères. Cependant, qu'en est-il au milieu de nous? Quel drame! Ces paroles, tous en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. Paul relève l'individualisme des chrétiens, précisant en finalité que chacun était là pour lui-même. En m'arrêtant quelque peu sur ce sujet-là, sans revenir forcément au contexte dans lequel cette parole a été dite, je désire traiter ce sujet de manière à ne pas avoir deux parties dans l'Église. Vous savez, dans l'Église, il y a toujours ceux qui disent « Personne s'occupe de moi ». Donc, vous avez cette catégorie-là qui est tout le temps dans la logique du « On doit s'occuper de moi ». Et puis, vous avez la seconde catégorie qui, elle, a le sentiment que c'est toujours sur eux que repose toute la responsabilité de prendre soin des autres. Je voudrais que chacun se sente concerné personnellement. Chacun d'entre nous, eh bien, est chargé d'une responsabilité. Chacun. Je voudrais qu'on puisse nous dire à nous-mêmes, qu'en est-il de moi? Où en suis-je? Avec cette question, où est ton frère? Quelle est ma réponse? Mon premier point, c'est que nous avons une responsabilité envers nos frères et nos sœurs. Tu es important pour moi. Jésus dira, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, aimez-vous, c'est un impératif, c'est pas une proposition, c'est pas une suggestion, c'est pas « Caroline, si t'as envie, eh bien tu vas aimer Samuel, t'es obligé de m'aimer ». Mais le problème c'est que l'inverse est vrai aussi, enfin c'est pas un problème. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Lorsque l'Éternel interroge Caïn, aucun de nous n'imagine que l'Éternel ne savait pas ce qui s'est passé. Dieu savait très bien ce que Caïn avait fait. Dieu savait très bien où était Abel. Son sang criait. Mais il va le mettre en face de sa dureté, en face de son manque d'amour. Il va le mettre en face de ce qui était sa responsabilité. Lui, le frère aîné, ne devait-il pas prendre soin du plus petit? Lorsque l'amour n'est plus, alors, pardonnez-moi, mais tous les coups sont permis. Et lorsque l'amour disparaît, c'est souvent les relations qui se brisent. C'est la séparation, la division. Combien de couples sont morts lorsque l'amour n'était plus? Quand il n'y a plus d'amour, les couples n'existent plus. À la rigueur, on cohabite, mais ce n'est pas ça. Le manque d'amour avait engendré jalousie, orgueil, destruction du frère. De la même manière, lorsque l'amour disparaît dans les relations, soudain s'installe l'indifférence. Mes frères, Jésus a-t-il été le gardien et le berger de ses disciples? Je le crois de tout cœur. Écoutez ce qui est écrit. Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Je les aimais, je veillais sur eux, je les encourageais. Regardez combien de fois Jésus encourage ses disciples. Même quand ils tombaient, même Pierre le renégat, il va l'encourager. Pierre, m'aimes-tu, m'aimes-tu. Et à la fin, il lui refait confiance. Il lui dit, paie mes brebis, nourris mes brebis. Il le restaure dans son statut. Il lui donne le statut de pasteur. Lui, le traître, reçoit à nouveau le statut de pasteur, pleinement pardonné. Croyez pas que c'est extraordinaire quand on s'encourage les uns les autres. Vous imaginez les cultes le dimanche, vous venez et chacun vous dit « Waouh, je suis tellement content de te voir. J'ai vu les progrès que tu as fait. Continue, je suis avec toi, je te soutiens. » Si chacun s'encourage, vous repartez de ce lieu avec une pêche, avec une joie de servir le Seigneur. Jésus pourra dire « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Mon frère, ma sœur, aucun de ceux que tu m'as donnés. Lorsque je préparais ce message, je priais et je disais, fais-moi la grâce de ne perdre aucun de ceux que tu nous as donnés. Aide-nous, Seigneur. L'Épître aux Hébreux dit, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Mais comment peux-tu veiller sur l'autre si tu ne t'intéresses pas à lui? La question se pose, ne sommes-nous qu'un rassemblement d'individus indifférents les uns aux autres? Ne venons-nous que finalement, pour nous servir nous-mêmes, lever nos mains, dire « Seigneur, je t'aime », ressortir, notre frère est mal, mais nous ne l'avons même pas vu. Je ne peux pas prendre soin des autres. Je ne peux les encourager si je ne m'intéresse pas à eux. Veillons les uns sur les autres. Mais souvent, on ne s'est même pas préoccupé de savoir comment s'appelle le voisin, comment se nomme la voisine, d'où il vient, quelle est son histoire. Vous allez me dire, mais Samuel, c'est impossible, on ne peut pas connaître tout le monde, c'est sûr. Mais on peut au moins connaître quelques-uns. On peut au moins commencer à se dire, Seigneur, j'ai envie de prier régulièrement pour ceux qui m'entourent. Pour ça, tiens, ça serait bien que je leur demande leur nom, leur prénom. Vous savez, les rencontres de maison, les groupes connexion, c'est un excellent endroit. On avait encore l'autre soir le rendez-vous chez Papa Jean à la maison. On était, je ne sais pas, 12 ou 13, je ne sais plus combien on était. Mais, hein, Christian, on se réjouit pour ces soirées. On se retrouve dans les maisons. Et là, on partage la parole. Est-ce que tout est parfait dans les maisons? Mais non! Tout le monde a l'occasion de s'exprimer. Est-ce que tout ce qui est exprimé, c'est toujours waouh, super? Mais non! Non, ce qui est intéressant, c'est que parfois dans les maisons, tu as les caractères qui remontent. Je vous invite à rejoindre les groupes de maison. Vous ne savez pas où il y a les adresses au fond, mais je vous invite. Les groupes connexion, les jeunes, je vous invite. Vous savez, il n'y a rien de plus beau d'être ensemble. Et là, on découvre, oui, c'est vrai que parfois il y a des tensions, parfois, mais c'est nécessaire. Qu'est-ce qui nous fait progresser? C'est de nous retrouver parfois face à nous-mêmes. Deuxième point, une question que je me suis posée, est-ce que c'est que le rôle du pasteur de veiller? Souvent les gens disent, ah, ça c'est le job du pasteur. Le pasteur, c'est un berger. Donc c'est au berger de protéger les brebis, de les soigner, de les nourrir, de ceci, de cela. C'est vrai, nous avons une fonction, nous avons un rôle, une responsabilité qui ne repose pas sur vos épaules. Mais pour autant, est-ce que cela ne repose que sur nous? Ézéchiel fait une série de reproches au pasteur. Dans Ézéchiel 34, je ne vais pas le lire, je ne vais pas lire ce qui concerne les pasteurs. Écoutez, j'ai souvent remarqué que les gens lisent la première partie qui concerne le pasteur, et après ils t'appellent le lundi, en disant « Frère, j'ai une révélation, vous voyez ». Faites pas assez de visites, faites pas assez ceci, on fait pas assez cela, et à la fin, nous, on fait une déprime. Et on s'arrête là, les pasteurs, waouh, c'est sévère là, les pasteurs. Et c'est vrai que c'est très sévère. Mais dans le même chapitre, et là, c'est plus au pasteur qu'il est parlé, c'est aux brebis. Écoutez ce qu'il est dit. « Et vous, mes brebis, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre brebis et brebis, entre bélier et bouc. Est-ce trop peu pour vous de paître dans le bon pâturage pour que vous fouliez de vos pieds le reste de votre pâturage? De boire une eau limpide pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Et mes brebis doivent paître ce que vos pieds ont foulé et boire ce que vos pieds ont troublé. C'est pourquoi ainsi leur parle le Seigneur l'Éternel. Voici, je jugerai entre la brebis grasse et la brebis maigre. Parce que vous avez heurté avec le côté et avec l'épaule et frappé de vos cornes toutes les brebis faibles jusqu'à ce que vous les ayez chassées, je porterai secours à mes brebis afin qu'elles ne soient plus au pillage et je jugerai entre brebis et brebis. » Et là, il est question d'attitude et de comportement entre brebis. Là, du coup, c'est plus le pasteur qui est au centre du débat. Là, c'est les brebis et c'est la relation entre brebis et brebis. Le reproche qui est fait, c'est « tu n'as pas respecté l'autre. Tu as empiété sur son terrain, tu as même piétiné l'herbe. Et maintenant, ma brebis doit venir essayer de se nourrir là où l'herbe a été piétinée. Tu avais de l'eau, tu avais tout ce qu'il fallait. Tu n'en avais pas assez, tu as encore troublé ce qui restait. Et mes brebis ont dû venir là. » Lorsque Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », c'est dans le désir de voir son peuple, son église. Être heureux, être heureuse, c'est dans le désir de voir les uns et les autres s'épanouir, les uns par les autres. Souvent nous attendons tout de Dieu, mais j'aimerais vous dire que Dieu lui attend certaines choses de nous. Nous attendons tout de lui parce que finalement nous ne voulons pas toujours faire ce que nous devrions faire. La question se pose à toi, mais où est ton frère, où est ta sœur? Que vas-tu répondre? Permettez-moi de continuer simplement, et ce sera mon troisième point, en parlant de l'attitude dans l'Église, puisque c'est de cela qu'il s'agit, d'attitude, brebis entre brebis. Et je ne vais pas forcément développer un sujet précis, mais plutôt faire du commentaire de texte. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 12, les versets 9 à 16, nous avons toute une série de recommandations que l'apôtre Paul donne. Et je voudrais simplement voir cela avec vous. Écoutez, première chose, que l'amour soit sans hypocrisie. Sans hypocrisie, que l'amour soit vrai. L'hypocrisie est un poison. Car l'hypocrisie dénote parfois les motivations. On peut sembler être très avenant avec quelqu'un, être rempli d'amour, mais uniquement parce qu'on a un intérêt. On cherche à en tirer quelque chose. Alors lui peut-être ne le verra pas, quoiqu'avec le temps il s'en rendra compte. Mais celui qui juge mon cœur, lui le voit. Aimer sans hypocrisie, c'est également aimer dans la vérité. Quand mon frère dysfonctionne, l'amour c'est lui dire la vérité. C'est ça aimer. Certaines personnes m'ont déjà dit la vérité. Un jour, un pasteur m'a écrit, j'avais prêché dans une église. C'était notre frère qui venait de Suisse avec sa belle barbe blanche, Maurice Ray. J'avais prêché, je ne l'avais jamais rencontré, jamais vu. Et puis là, il m'écrit, « Cher frère, j'ai beaucoup apprécié votre prédication dans tel et tel endroit. » Je ne savais pas qu'il était là. Et il commence d'abord par m'encourager. Waouh, quand j'ai lu les premières lignes, c'est quand même une sommité, le frère Maurice Ray. Oui, mais c'était que les premières lignes. Parce qu'après est venue l'heure de vérité. Et il a commencé à écrire. « Cependant, j'ai trouvé que vous avez été excessif sur tel point. » J'ai trouvé que votre manière de parler était trop agressive à ce moment-là. Vous savez comment j'ai réagi au début? Je me suis dit, mais c'est qui lui? Mais c'est comme ça que j'ai réagi. J'ai pas apprécié. Je veux être sincère avec vous. Vous savez, souvent on se dit, le pasteur, il est lisse, il est toujours heureux. Vous lui faites une remarque, il dit, merci frère, ça va me changer. Là, tu parles, hein? Parce que c'est la vérité. J'étais irrité, contrarié. Et j'ai lu, et puis j'ai plié la lettre. D'abord, je me suis dit, je vais tout de suite lui répondre. Vous savez, on a ce réflexe-là. Je vais tout de suite lui répondre. Je me suis dit, non, mets d'abord la lettre de côté. Et puis, tout d'un coup, c'est la conscience, là, l'esprit qui parle à votre conscience, qui dit, pourquoi tu réagis comme ça? C'est ça, l'humilité? Pourquoi tu n'essaies pas de réfléchir sur ce qu'il te dit? Et si, dans ce qu'il te dit, il te faisait progresser en te disant la vérité? Ça a commencé à changer. Au lieu d'y voir une série de reproches, j'ai commencé à y voir de l'amour de la part de quelqu'un qui voulait me voir progresser. Alors j'ai repris une lettre, je lui ai réécrit, j'ai dit, cher frère, je voulais vous remercier pour l'amour que vous me portez et qui vous a permis d'être vrai avec moi. Merci infiniment, je tiens compte de vos remarques et je crois qu'elles me feront progresser. Après cela, nous sommes devenus amis, il est venu ici dire la vérité, mais accepter également la vérité. Cependant, quand je dis la vérité, de quelle manière vais-je la dire? Ça, c'est important également. Vous savez, c'est comme quand vous êtes à table. Comment allez-vous dire les choses? Suivant que vous le dites à votre épouse, elle est ou heureuse ou nerveuse. Dans l'église, on est souvent pareil. On a une vérité à dire à quelqu'un, on y va. Si tu continues, tu vas en enfer. Puis on est étonné que le frère soit blessé. Non, d'abord, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on va lui le dire à lui et pas à toute l'église. C'est souvent l'inverse. Quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on va d'abord voir tout le monde, pour ensuite lui le dire à lui. C'est contraire à ce que dit la Bible. Écoutez ce que dit Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Et moi, je souhaiterais que ce soit cette étape-là qui suffise. S'il n'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Il y a différentes étapes. Et Paul précise la chose suivante. Il dira, frère, si un homme, Galates 6, verset 1, vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Si j'ai une vérité à dire, que je sois capable de le dire avec humilité et douceur, sachant que qui suis-je moi pour juger mon frère? Et que je puisse lui le dire avec cet amour dans la vérité, pour qu'il progresse. Quand quelqu'un, un homme, une femme, sent, ressent ce que tu cherches, c'est son progrès. Et si tu lui dis, c'est parce que tu l'aimes et non pas parce que tu estimes que tu es au-dessus de lui, c'est avec joie qu'il reçoit ton conseil. Mais si tu l'agresses, évidemment qu'il ne réagira pas selon ce que tu pourrais attendre et tu ne le gagneras pas. Paul continue, il dira, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Vous allez me dire, oui mais Samuel, tu as pris l'exemple de Caïn. Mais Caïn, il a tué son frère. Moi, je n'ai jamais tué quelqu'un. Ah, c'est vrai que nous n'avons jamais utilisé d'armes pour tuer, quoique je ne sais pas, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu d'assassinat ici. Mais combien de fois avons-nous assassiné avec notre langue? Vous savez, les ennemis de Jérémie vont dire une chose. Ils vont dire, allons et tuons-le avec la langue. Je peux tuer mes enfants avec la langue selon ce que je dis. Une femme peut tuer son mari ou inversement. Mais je peux également, dans le cadre d'une église, tuer mon frère, tuer ma sœur par les propos que je tiens. Et je serai considéré comme un meurtrier. 1 Jean 3, 14, il nous dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Moi, j'aimerais dire, Seigneur, moi je préférerais plutôt ne pas pardonner ou n'avoir rien à pardonner. Parce que le pardon, c'est qu'il y a déjà eu offense. C'est mon frère Jean-Marie qui disait une belle phrase. Il a dit, il vaut mieux mettre une barrière en haut de la falaise qu'un hôpital au bas de la falaise. Et souvent une morgue. Mieux vaudrait prévenir que guérir. Mais si jamais elle n'a pas été franchie, suis-je capable de pardonner? N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Tout ce qui peut détruire mon frère ou ma sœur, je veux m'en détourner. Je ne le veux pas. Par amour fraternel, verset 10, ayez de l'affection les uns pour les autres. Qu'est-ce que l'affection? C'est un sentiment d'attachement à ceux qu'on aime. Est-ce que vous avez un sentiment d'attachement à vos frères et vos sœurs ici? Parce que si ce n'est pas le cas, ça signifie une chose, il faut que je commence à prier pour ça. Seigneur, il faut que je le cherche sérieusement. Il faut que j'examine sérieusement ma situation. La Bible dit, un ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Je ne vous parle pas d'une relation d'amitié, je vous parle d'une relation de frère. Où est ton frère? Il n'est pas dit où est ton ami? Où est ton copain? Où est ton frère? Si un ami aime en tout temps et que finalement dans l'épreuve ou dans le malheur il se montre un frère, c'est donc que le frère est encore un niveau plus haut. Son intensité dans l'amour qu'il a pour toi est encore plus grande et plus profonde. Par honneur, continuera-t-il, usé de prévenance réciproque. En d'autres mots, quant à l'honneur, soyez prompt à le rendre aux autres. Nous sommes appelés à nous honorer les uns les autres, à nous aimer les uns les autres, à ne pas chercher nous l'honneur, mais à le rendre à qui de droit, à nous réjouir du succès des autres, à nous réjouir de la réussite des autres. Et quand un frère est agressé, on le protège. On ne se joint pas aux agresseurs. Usez de prévenance réciproque. Honorez-vous mutuellement. Honorez-vous par des paroles encourageantes. Honorez-vous peut-être simplement en disant, frère, tu as de l'importance pour moi. Usez de prévenance réciproque. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Soyez fervent d'esprit. Servez le Seigneur. De l'empressement, non de la paresse. Frère, que puis-je faire pour mon frère? Que puis-je faire pour mon frère qui est au loin là-bas? J'aimerais dire, nous aurions besoin de personnes qui se rajoutent à toute l'équipe qui travaille pour la mission à Noël ou pour la fête des mères, des gens qui bricolent, qui ont des mains d'artistes, qui font simplement eh bien, un patchwork ou ce que vous voudrez, mais des personnes qui sont prêtes à dire, eh bien Samuel, ok j'ai entendu, moi j'ai tel talent, je sais faire telle chose, je vais les faire et puis je les mettrai pour soutenir les missions. Tous ceux qui veulent s'engager dans ce domaine-là, tous ceux qui ont des mains d'artistes, je ne suis pas un bricoleur. En général, quand j'ai fini de bricoler, ça ne marche plus. Mais il y a parmi nous des doigts en or. Allez voir Christian. Dites-lui, je voudrais vraiment m'engager. Je peux faire. Souvent, les gens me disent, ah, j'habite trop loin, je suis là. chez toi, tu peux faire et tu peux soutenir. J'aimerais vraiment vous encourager. Et puis, dire la chose suivante. Au verset 15, je saute quelques versets parce que je voudrais arriver au terme. Je ne vais pas tout commenter, je n'ai pas le temps. Il nous est dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Alors, faire la fête avec ceux qui la font, ça on aime. Je ne sais pas si c'est un problème pour vous. Quand on t'invite pour dire, on va se réjouir pour telle raison, je t'offre un pot, j'offre un repas, je vous invite. Est-ce que c'est difficile pour vous de dire, je viens ? Mais non, on se réjouit. Mais ensuite, pleurer avec ceux qui pleurent, ça c'est autre chose. Pourquoi ? Parce que ça va demander du temps. Ça veut dire, ça signifiera, je vais aller chez lui, je vais le visiter, je vais l'écouter. Et l'écouter, c'est peut-être passer une heure avec lui, peut-être deux heures. Et je vais le soutenir, je ne vais pas seulement le visiter une fois, je vais essayer de l'appeler. Tout ça, vous ne pouvez pas attendre de cinq pasteurs, c'est impossible. Il serait mort à la tâche. Mais si chacun le fait à l'égard de l'autre, si dans chaque cellule, si dans chaque groupe de maison, on commence à prendre soin les uns des autres, à nous téléphoner, pas pour dire, t'as entendu ce qu'il a dit de nouveau ? Non, non, au lieu de faire ça, frère, j'ai vu que ça fait deux fois que t'étais pas là, tu es malade, t'as un problème, tiens, j'étais à l'église, ça fait deux fois que j'y suis, ton siège est vide, est-ce qu'il t'arrive quelque chose ? Est-ce que je peux t'aider ? Est-ce que je peux prier pour toi ? Est-ce que tu vis un temps difficile ? Prends du temps, un coup de fil. Où est ton frère ? Où est ton frère ? Où est ta sœur ? Et là, il ne s'agit pas de dire, oui, c'est vrai ce qu'il dit, personne ne s'occupe de moi. Car chacun d'entre nous a la même responsabilité. À ceux qui parfois me disent, personne ne s'occupe de moi, je leur demande, de combien de personnes t'occupes-tu ? Personne ne me visite, combien en as-tu visité ? Non pas qu'il faille donner pour recevoir, mais chacun a la responsabilité devant Dieu de s'occuper de son frère. Suis-je le gardien de mon frère ? Ce sera peut-être envoyer un SMS. Ce sera peut-être envoyer un email. Ce sera peut-être écrire une lettre. Vous savez, est-ce qu'une lettre à la main fait plaisir ? C'est peut-être vous dire, tiens, c'est la fin de l'année. Il y en a beaucoup qui sont seuls. Je vais ouvrir ma maison. La Bible dit exercer l'hospitalité. Je ne veux pas qu'une seule personne dans l'église soit seule à Noël. Alors je vais ouvrir ma maison. Est-ce que c'est toujours facile ? Non. On a fait parfois des expériences assez... Je me souviens toujours d'une personne qu'on avait invitée, vraiment par compassion. Mais le brave, c'était la première fois qu'il voyait des Ferrero Rocher, apparemment. Alors on avait fait circuler la boîte autour de la table. La boîte a fait le tour. Elle n'est jamais revenue. Et en même temps, ça valait la peine. Et puis, c'est resté une histoire que... Hein, depuis... On en a eu beaucoup d'autres, mais c'est de lui qu'on se souvient, c'est marrant, hein ? Frères et sœurs, non, si vous invitez pour vous dire, ouais, oui, c'est sympa, ça sera... Non, et ne vous attendez pas à des remerciements après, hein ? Non, parfois, mes parents ont hébergé des gens, ils en ont hébergé. Ils en ont hébergé un jour, et puis il nous a cambriolé après. Alors on pourrait se dire, si c'est comme ça, tu vois, voilà, le dimanche matin, il nous encourage à faire ça, regarde le résultat des courses. Mon frère, ma sœur, t'arrêtes pas à ça. Parce que pendant ce temps, tu vas en héberger 50 autres qui, eux, vont changer de vie. Un matin, ils leur ont emmené c'est un clochard hein, qui allait se suicider. Hein. Ils leur ont emmené à 4h du matin. Tu sais, tu ouvres la porte et tu as quelqu'un qui est là, qui pas rasé, rien. Tu sais pas si c'est un rêve. Puis il est rentré. C'est un chrétien vraiment, qui a dit, frère, je l'ai vu, il voulait se suicider. Mais que Dieu soit béni, ils l'ont gardé. Cet homme a été guéri dans son cœur. Il a retrouvé un métier. Il s'est marié. Il a eu des enfants. Et il appartient au Seigneur. Il habite dans le sud de la France maintenant. Un autre est pasteur baptiste, aumônier de prison. Ils l'ont reçu. Mon frère, ma sœur, c'est tellement beau de faire ce que dit l'Écriture. Et si chacun d'entre nous le fait, il n'y aura plus personne qui soit seul. Que le Seigneur nous aide. Je voudrais terminer en vous encourageant, simplement ce sera ma conclusion.
Merci pour votre écoute et si vous désirez commander le message que vous venez d'entendre, contactez votre radio locale.
Écoutez, c'est Phare FM. I don't always do the things I know to do. And I'd be lying if I said most days I look just like you too. But I
something that they see in the life of love I lead. I got something that they need, and I hope in everything I do there's a little more of you, yeah. And that there's something so different, they're wondering what's missing, 'cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up with your love and loves with a love that can make something different, something different, something different, something different. When my existence isn't living for myself, myself, always giving someone who lays my life down for somebody. There's nothing like someone who shows up with your love and loves it, a love that can make something different, something different, something different, something different, something different, something different, something so right, love that's so bright, it don't look like. There's no light, it's the right time. You can take my everything. I wanna be your hands and feet. And be something so different. And be something so different. And be something so different. They're wondering what's missing. 'Cause something don't look quite the same. Yeah, there's nothing like someone who shows up.
Something different, Joseph O'Brien sur Phare FM. Il est 1h48 et notre programme musical se poursuit. On retrouvera également Hommes et Femmes, Mode d'emploi, où il sera question de lettres de pardon. Ce sera tout à l'heure, ce sera dans 7 minutes. Avant cela, de la musique, Kelly Clarkson, Because of You. Et tout de suite, Mathieu Brouillet avec Little Boy. Vous écoutez Phare FM et je suis ravie de vous accompagner jusqu'à 5h dans la nuit autrement.
Story of a little boy, 5'8", brown hair, still unemployed. Hoping that there was something more, but still not sure that he deserved the cure. Gueule de bois tous les matins, pourquoi chaque fois j'en sais rien? C'est mon quotidien et je n'y peux rien.
Oh God,
I'm trying to be better, but I need a savior.
Oh yeah, oh, I need a savior.
Oh God, I know that I need a savior.
From myself.
Oh my God, are you higher up in the sky? Looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word? And I'm in.
Yo, it's the story of a grown boy. New life, new faith, I made new. I can't explain what made me change, but Lord, just let it rain on me.
Rempli de ta grâce, je te remercie.
Je te donne tout de moi, je lève ma voix, j'écrirai sur tous les toits, tu es ma joie.
Oh God, I'm trying to be better, but I need a savior.
Oh yeah, oh, I need a savior.
I need you.
Oh God,
I need a savior.
That's right.
To save me from myself. Oh my God, are you higher up in the sky? Looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word? And I'm in.
Are you higher up in the sky? Looking down on me, watching who I could.
Are you higher up in the sky? Looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word? And I'm in. Oh my God, are you higher up in the sky? Looking down on me, watching who I could be if I would only believe in who you are. When I look above at the stars, can you just say the word?
My heart so much misery. I will not break the way you did. You fell so hard. I've learned the hard way to never let it get that far. Because of you, I never stray too far from the sidewalk. Because of you, I learn to play on the safe side so I don't get hurt. Too long before you point it out. I cannot cry because I know that's weakness in your eyes. I'm forced to fake a smile, a laugh every day.
Femmes, mode d'emploi avec Eric et Rachel Dufour, en partenariat avec The Watchers.
Notre thématique du jour, la lettre de pardon.
Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui est négociable. C'est vraiment entre Dieu et moi. Je n'ai pas besoin d'attendre que la personne qui m'a offensé vienne me demander pardon pour finalement lui pardonner aussi. La priorité, c'est j'ai besoin de rétablir ma relation avec Dieu parce que la Bible nous dit que si je ne pardonne pas, eh bien je ne suis plus pardonné non plus. Donc c'est extrêmement important de comprendre cela et je prends conscience que okay, je dois en premier pardonner.
Donc on vous conseille d'écrire une lettre à la personne qui vous a fait du mal. Bien sûr, on n'envoie pas la lettre.
Jamais.
C'est entre Dieu et moi. Vous mettez devant une feuille blanche, vous demandez au Saint-Esprit de vous aider. et vous attaquez. Mettez le nom de la personne, cher machin. La première partie est vraiment faite pour vider le pus qui est dans la plaie. Tu m'as blessé, tu as été injuste, quand tu as dit ça, vous videz le pus. Si vous avez envie de dire des gros mots, lâchez-vous. On est en train de vider une plaie qui s'infecte.
Il faut absolument libérer vos émotions à cet endroit-là afin de ne pas vaincre le processus et que vous vous retrouviez avec les mêmes choses qui reviennent en permanence où le pus a regrandi.
Et puis ensuite, il faut prendre la décision de pardonner. Maintenant que vous avez regardé en face la douleur, extrêmement important de prendre le temps de dire « Et maintenant, machin, je te pardonne pour toutes ces choses-là qui m'ont fait tellement de mal et qui ont pourri ma vie et mon cœur. » Et puis ensuite, on parle à Dieu. « Seigneur, dans ta parole, tu me demandes de pardonner. Je l'avais pas tout à fait fait, mais maintenant, c'est fait. J'ai pardonné. Merci de me pardonner aussi et que notre relation puisse redevenir celle que tu veux. »
Alors, vous allez écrire ces parties-là sur des feuilles séparées, puis vous allez prendre une autre feuille, très important. Et maintenant que j'ai pardonné, voilà, je vais être différent ou différente de telle et telle manière dans ma relation avec cette personne, ne serait-ce que quand je pense à cette personne, au lieu de lui vouloir du mal, je vais maintenant bénir cette personne. Voilà, chaque fois que je penserai à elle, que je devrais lui parler, ou bien que je me retrouverai dans une situation similaire, je vais décider de bénir cette personne, et puis voilà comment je vais réagir. Et en fait, cette partie-là, elle est extrêmement importante parce que c'est celle où vous allez vous reconstruire et vous sortez de votre position de victime. Vous n'êtes plus une victime, vous prenez la victoire. Ensuite, quand vous avez terminé d'écrire cela, vous vous mettez seul dans une pièce, vous installez une chaise vide face à vous et puis vous allez inviter symboliquement la personne à qui vous avez écrit la lettre à s'asseoir sur cette chaise en lui parlant à haute voix. Alors ça fait bizarre, vraiment, je sais, les premières secondes, puis après ça va aller tout seul. Puis vous lisez la lettre à haute voix, il y aura des émotions, laissez-les se dérouler. Et puis quand vous avez fini de lire cette lettre, eh bien vous allez séparer les premières parties de la dernière et vous allez brûler les premières parties. Symboliquement, c'est comme une purification par le feu. Puis aussi, une fois que c'est réduit en cendres, on ne peut plus rattraper le papier. Et c'est une promesse, je n'irai plus jamais reprendre ces choses que j'ai pardonnées pour leur redonner de la vie. Par contre, vous allez garder avec vous la dernière partie et puis chaque fois que vous sentez des émotions négatives qui commencent à essayer de revenir, proclamez-la en la lisant à haute voix pour vous-même. Peut-être quand vous lisez votre Bible, eh bien, prenez-la si c'est nécessaire, lisez-la aussi et vous allez voir que petit à petit, eh bien, la victoire sera réelle.
C'était Hommes et Femmes, mode d'emploi. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ericetrachel.com.
Phare FM, une autre musique.
To look down at you.
Things gonna be
of another dawn. I got some time.